Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est précisément midi, une minute. Vous le savez, Pascal CV est parti en long week-end à Chicago. Donc, j'ai le bonheur d'être avec mon ami Mathias Turcotte. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien. Quand on est de retour derrière le micro de Boulevard avec les meilleurs aux auditeurs, ça va toujours bien.
Ça va toujours bien, en effet. Mathias, comment va ta session à l'école? T'as-tu des examens ces temps-ci?
Ah, ça se passe bien. Ces temps-ci, c'est quand même tranquille. Remarque, j'ai eu un examen hier soir, là, puis je peux... Mm-hmm. Je sais pas si certains auditeurs sont encore à l'école ou ont des souvenirs traumatisants d'école, mais un examen à 6h30 le soir, la motivation est dure à trouver. Mais écoute, on continue, puis ça se passe super bien au cours des dernières semaines. Là, mais là, on accélère, puis on rentre dans le rush de fin de session.
Magnifique. On est également au niveau de température à moins 1 degré Celsius à l'heure actuelle. C'est de la petite neige qui tombe sur Québec. Accumulation de 2 à 4 cm, moins 4 cette nuit. 1 degré demain, possibilité d'averse ou de neige, et moins 1 degré avec neige intermittente pour dimanche. Mais on ne parle pas d'accumulation pour le moment. Mathias, qui dit vendredi, dit un petit peu plus de circulation, et surtout avec... ce brouillard-là là, qu'il y a sur Québec et cette petite neige, j'imagine qu'il doit en avoir.
Oui, j'en ai fait mention. Vendredi, ça commence toujours tôt, la circulation. Puis là, on a la température en plus. Fait que préparez-vous. Je vous prépare mentalement. Là. Je vous dis d'avance, ça va être un vendredi qui, selon moi, va être très difficile. Et ça commence déjà malgré le fait qu'on est seulement midi. Laurentienne, direction sud, en arrivant sur Capitale, ralentissement à prévoir. Capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne, c'est au ralenti également. Capitale direction est, cette fois-ci à hauteur de Robert-Bourassa, ralentissement dans le secteur. Et également, Robert-Bourassa et le Bourgneuf, l'intersection entre les deux, ralentissement dans tous les côtés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de cette intersection-là. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, est en train de faire un scrum à l'hôtel de ville. Donc, on va vous tenir au courant si on a des informations. François Legault va s'en venir faire un scrum à l'hôtel de ville de Montréal avec Soraya Martinez Ferrada, je vais le dire comme il faut. Également, Zoran Mamdani va faire une petite conférence de presse avec Donald Trump cet après-midi. Donc, plein de gros sujets politiques. Mais Mathias, il y a quelque chose qui prend toute la place au Québec. Attends, je vais penser. Parti libéral du Québec, Marois Risky, Pablo Rodriguez. Je me trompe-tu?
Hey, je pense que tu l'as direct dessus. C'est le sujet. Je pense que c'est le sujet de la semaine. Puis avec raison, là, ça brasse du côté du Parti libéral. Puis on a eu d'autres développements aujourd'hui. Tout d'abord, Pablo Rodriguez qui a convoqué ses députés donc aujourd'hui à 13h. Le but, c'est de les rassurer puis d'établir un plan d'action justement pour sortir de cette fameuse crise-là, sortir le Parti libéral. Ils ont la tête dans l'eau, on va dire. Là. Ils ont beaucoup de difficultés ces temps-ci. L'objectif, ça va être de trouver le plan d'action pour sortir de cette crise-là. Du côté du Parti libéral, on dit quand même qu'il ne s'agit pas d'un caucus officiel de gestion de crise. Bon, appelez-le pas de même, mais on va s'entendre. Ça reste un caucus de gestion de crise. Donc, c'est ça. On va mettre un plan d'action. On va essayer de ramener, selon ce qui est des informations sorties jusqu'à maintenant, l'objectif, ça va être de remettre l'accent sur le bilan du gouvernement Legault qu'on va s'entendre et pas nécessairement positif, fait que c'est quand même un plan d'action qui pourrait être réalisable, mais en même temps, ça fait tellement de bruit que c'est sûr que ça va rester le sujet d'heure la semaine prochaine.
Tu sais, je me présente, là, je suis Pablo Rodriguez devant les médias. Bonjour, je voudrais vous parler du bilan de la CAQ.
Attends, un peu moins d'énergie, s'il te plaît.
Ouais, c'est vrai. Bonjour, je voudrais vous parler du bilan de la CAQ. OK, Mathias, c'est le journaliste. Je suis ouvert aux questions.
Oui, ben justement, question. Parce que là, ça continue à brasser.
Oui.
Est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher?
Bien, écoutez, je voudrais revenir sur l'investissement dans Nordvolt. Je crois pas que c'est un bon investissement. Est-ce que je suis convaincant?
Non, pas du tout. Bon, puis je pense que ça va ressembler à ça, du coup. Honnêtement, là, l'énergie était bonne. Le niveau d'énergie de Pablo...
L'énergie était bonne, hein?
Du côté de ses sorties depuis le début de la semaine. Là.
Je sais pas. Marois m'en a pas parlé. Qu'est-ce que je peux faire?
Essayez de pas vous endormir durant mon point de presse
c'est
aujourd'hui,
ça.
S'il vous plaît.
Yes.
Côté Marois Risky puis Geneviève Hinz, ça brasse également parce que on aurait dit qu'il y a comme plusieurs sous-histoires, sous-chapitres au cours de ce gros livre-là qui est en train de se tracer. Puis un d'entre eux, c'est la sorte de guerre qu'il y a entre Marois Risky puis Geneviève Hinds. Marois Risky, ancienne leader parlementaire du Parti libéral, qui a congédié sa chef de cabinet cette semaine, qui était Geneviève Hinds. Geneviève Hinds a envoyé une mise en demeure à Marois Risky en l'obligeant, dans les 24 heures, d'expliquer les raisons de son congédiement. Les avocats de Marois Risky qui lui ont répondu en disant que elle connaissait très bien les raisons de son congédiement, que c'était notamment dû à son refus de consulter la commissaire à l'éthique en lien avec l'utilisation de ressources de l'Assemblée nationale. On lui reprochait également des insubordinations du côté de Marois Risky, qui reprochait ça à Geneviève Hinds, puis qui expliquait un peu le congédiement de son ancienne chef de cabinet de cette façon-là. On dit que Geneviève Hinds va probablement répliquer à la missive envoyée par les avocats de Marois Risky. Bon, ça va rester à voir. Est-ce qu'elle a vraiment des documents en sa possession qui pourraient contredire ce que Marois Risky dit présentement? Ça va être à voir dans les prochains jours, mais ça continue de brasser. Puis les avocats de Marois Risky ont même précisé que, et je cite, « Votre cliente soutient ne pas connaître les motifs de sa fin d'emploi alors qu'elle a choisi de ne pas se présenter à la rencontre expressément convoquée à cette fin. » Donc, selon les dires du camp Risky, Geneviève Hinds s'est tout simplement pas présenté à la rencontre durant laquelle
qu'elle aimait faire son emploi et qu'on allait justement lui mentionner les raisons. Ça tombe bien parce que les vendredis à midi, on a les deux meilleurs vulgarisateurs d'actualité sur les médias sociaux pour débattre et parler de dossiers chauds de l'actualité. J'ai nommé Farnell Morisset et Lambert Drainville. Messieurs, comment allez-vous?
Moi, ça va très bien. C'est toujours un plaisir de parler avec Lambert. Ça m'arrive pas assez souvent dans ma vie.
Lambert Drainville, comment ça va?
Ça va bien. On se parle effectivement pas assez On se parle pas assez à radio, certainement pas assez dans la vraie vie.
Lambert, écoute, c'est un roman politique, on dirait une mauvaise télésérie qui a été écrite depuis lundi. Il se passe quoi? Pablo Rodriguez qui a dit « Ah ouais, il y a le caucus à 1h, je vais faire un point de presse à 14h ». Qu'est-ce qui peut arriver là après-midi? Puis tu le sais, tu es un stratège en communication. Pourquoi le vendredi 14h puis pas le lundi matin 9h? Là, de grâce, profitez des médias, s'il vous plaît.
Ouais, ben c'est une bonne question, effectivement. Tout ce qui est sorti public du vendredi, d'habitude, c'est réservé à tout ce qu'on veut qui passe sous la table. Et présentement, le Parti libéral sont vraiment loin d'être dans une perspective de vouloir avoir des choses qui passent sous la table. Ils veulent mettre le couvercle là-dessus. Là. Ils veulent, le plus rapidement possible, disons, faire avorter là, toute cette espèce d'histoire-là, là, qu'on ait les réponses qui semble tellement longue à avoir pour des questions tellement simples de « Hey, pourquoi qu'elle a été mise dehors? Hey, pourquoi elle n'a pas parlé à son chef? » Tu sais, c'est des choses tellement de base dans le fonctionnement d'un parti politique. Une députée d'expérience comme Marois qui savait très bien que d'agir de cette façon-là, faire cavalier seul, ça lui reviendrait dans le visage si elle n'avait pas, disons, les raisons valables derrière pour backer ce qu'elle a fait. Fait que là, ils sont pognés dans ce carcan-là, ils ont déclenché des enquêtes, puis on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais on sait une chose très certainement, l'horloge fait tic-tac, et plus l'horloge fait tic-tac sans qu'on ait réponse à nos questions, et je m'en balance que les gens me répondent « Oui, mais c'est judiciarisé, on n'est pas supposé en parler. » Ben, le fait demeure que judiciarisé ou pas, ça nuit énormément, énormément à l'image du Parti libéral qui, à moins d'un an des élections, a tout sauf de besoin de retourner nager dans ses eaux de financement politique un peu louche et voilà.
De brawny. Justement, tu parles du fait que c'est judiciarisé. Lambert, je vous fais entendre Maître André Ryan, associé pour BCF Avocat, sur les ondes de Mario Dumont ce matin concernant le fait que Marois Risky décide de ne pas parler en public. Et par la suite, Farnell, tu es un juriste, je veux t'entendre là-dessus. Je vous fais écouter ça à l'instant même.
De manière générale.
Cornel Morissette, t'en penses quoi si Mme Hines dit avoir pitchlé sa place publique, pourquoi tu me congédies? Et que là, de toute façon, on a l'intégrale sur Cogeco de la lettre de réponse de Marois Risky à la mise en demeure de Mme Hines. Marois Risky, serait-tu mieux de se présenter devant les journalistes et de dire voici ce qu'il y en a?
Il y a tellement de si dans cette situation-là. T'sais, si telle affaire, est-ce que? Si telle autre affaire, est-ce que? Que je me garde quand même une grosse réserve là-dessus. Il y a des situations possibles où même dire la raison pourquoi tu ne peux pas en parler n'est pas permis. Mm-hmm. Ça existe. Et je suis pas dans le secret des dieux. Je veux dire, je m'assume, là, je le cache pas, vous le savez. Je suis quand même quelqu'un qui a été proche de plusieurs personnes du Parti libéral dans le passé. Je le suis encore. Alors moi, je suis dans le... Il y a bien des chroniqueurs qui se vantent de se faire appeler puis avoir des gens qui leur... Moi, il y a personne qui m'a parlé. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, ne sachant pas ce qui se passe, commencer à lancer des « si », ah ben, si c'est un motif de congédiement et si Mme Hines donne son consentement et si, ben là, peut-être, il faut qu'on passe à travers les « si » avant d'arriver aux conclusions. Et je comprends totalement le désir du public de savoir ce qui se passe. Moi aussi, je veux savoir ce qui se passe. Moi aussi, je suis confus. Moi aussi, je suis inquiet. Moi aussi, j'aime pas ça, voir tout ça aller. Mais des fois, malheureusement, il y a une déconnexion entre la façon dont notre système de justice fonctionne et il y a une raison qu'on a un système de justice qui prend son temps, qui est lent, qui est prudent, et le désir du public de toujours avoir l'information le plus rapidement possible. Le public est parfaitement en droit de vouloir se faire communiquer ce qui se passe. Là-dessus, je pense qu'en effet, il y a des lacunes de tous les côtés impliqués. Mais je donne quand même, en tout cas moi, peut-être que c'est ma déformation professionnelle de juriste, là, mais j'attends de voir ça va être quoi quand ça va être entre les mains de quelqu'un qui est réellement impartial, qui a réellement accès à toute l'information avant de commencer à faire ce genre de spéculation-là.
Lambert, depuis mardi où Marois Risky dit pas de commentaire devant un ascenseur qu'elle attendait, on l'a pas revu dans la sphère publique. Là, je parle aux commentateurs politiques et aux gars qui a déjà travaillé pour des partis politiques. C'est mieux d'être big en tabarouette qu'elle a entre les mains parce que sinon, sa réputation est terminée.
Ouais, puis c'est là où est-ce que moi j'ai un petit problème. Puis je vais juste revenir un peu sur ce que Farnell a dit, tu sais. Moi, je suis bien d'accord avec le fait. Puis c'est là où est-ce qu'on voit nos deux créneaux respectifs. Farnell analyse vraiment ça d'un point de vue légal.
C'est nos forces respectives, Lambert. Je suis vraiment curieux de savoir comment tu vois ça aussi. Là.
C'est ce que j'adore d'avoir vous deux en même temps les vendredis à midi. Je le rappelle, chaque vendredi à midi dans l'émission d'Angeance.
Mais c'est que légalement, effectivement, on veut avoir un système de justice qui prend le temps de gérer chacun des angles, chacun des éléments, puis qui en arrive à la meilleure décision possible avec l'information qu'il va avoir sous la main. Maintenant, comme je disais en ouverture, politiquement, ça demeure que c'est extrêmement dommageable. Ça demeure que c'est une année électorale et donc il va falloir qu'on ait ces réponses-là plus tôt que tard. Et il y a des gens à l'interne de ce parti-là qui les ont, ces réponses-là, ou à tout le moins qui ouais, c'est ça qui... Ben Marois, on parlait justement de Marois, tu m'as lancé sur Marois. Jeff, Marois, pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? C'est tellement étrange. C'est une fille qui a fait une carrière au Parti libéral, qui a combattu pour ce parti-là, qui a été sa figure de tête pendant plusieurs années. Et là, tu es en train de me dire qu'à 6 mois de son retrait de la politique en 2026, elle sac le feu à ce qu'elle a essentiellement passé sa carrière à bâtir. Et ça, pour ce qui est pour l'instant, parce qu'il n'y a aucune des hypothèses qui est fondée sur quoi que ce soit de solide, autre que des rumeurs, qui seraient basées sur quoi? Je m'entendais pas bien avec ma directrice de cabinet, puis j'ai utilisé peut-être des questions de financement qu'on n'est pas trop sûr c'est quoi qui se passe pour la mettre dehors.
Ouais, c'est ça, parce qu'on mentionne dans la réplique de Marois Risky à la mise en demeure. Bon, imposant raison d'importants manquements en matière d'éthique en parlant du congédiement de Geneviève Hines, notamment en ce qui concerne le respect des normes de l'Assemblée nationale du Québec, des procédures internes et des attentes liées à la fonction qu'elle occupait. Donc là, on entend par là qu'elle aurait utilisé du financement dédié à l'Assemblée nationale pour du financement partisan. Mais crème, il faudrait que ça soit un montant exorbitant là, pour que ça soit... tellement un scandale comme on vit à l'heure actuelle.
C'est là que moi, tu sais, je vais mouiller, Jeff, là, puis encore une fois, autant que Farnell, vas-y. J'ai pas plus d'informations de l'interne, mais ça commence franchement, de par son silence qui se prolonge, à ressembler à une une fille, Marois, qui avait eu plusieurs accrochages avec sa directrice de cabinet qui lui avait été imposée par Pablo quand Pablo a été choisi chef et a traversé d'Ottawa vers Québec en l'amenant avec lui. Et ben, le seul motif qu'elle avait dans son coffre à outils pour justifier un renvoi immédiat, c'était un enjeu de nature éthique et possiblement qu'il y a effectivement eu un mauvais usage des sommes. Mais Jeff, on aura les réponses à ces questions-là au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Mais s'il fallait que ce soit vrai qu'ils ont utilisé de l'argent parlementaire à des fins partisanes, bon, effectivement, il faudra voir ce sera de quelle ampleur, mais ce ne serait pas la première fois. C'est illégal, ce n'est pas correct de le faire, mais des fois, la ligne est mince. Puis c'est, tous les partis politiques ont joué dans ce film-là. Tu te fais taper sur les doigts par la commissaire à l'éthique, tu fais attention, puis tu rembourses l'argent dans les bons coffres et tu ne le refais plus. Tu sais, c'est quelque chose qui est illégal, mais pas quelque chose qui est foncièrement grave. Alors, pour que Marois mette la fin de sa carrière politique sur sa ligne, sur la ligne pour un ce qui, pour l'instant, pour moi, semble être un prétexte, je ne comprends pas.
Farnell, justement, Lambert nous dit la ligne est mince. Je le redis, tu es un juriste. En effet, la ligne est mince. T'sais, parce
Très
que
mince.
Pablo Rodriguez disait lors de sa conférence de presse de mercredi, écoutez, moi, toutes mes dépenses sont payées par le parti, puis je vais le croire. Puis je vais croire les instances du parti. Mais la ligne peut être mince pareil parce que, oups, le député qui m'accompagnait, c'est l'Assemblée nationale qui a payé une coupe d'affaires, mais finalement, j'étais plus dans un rassemblement partisan qu'un rassemblement touché à l'Assemblée nationale. C'est très mince, là. Puis il y a plusieurs partis politiques qui ont joué dans ce film-là. Les libéraux ne seraient pas les premiers, là.
C'est pas juste mince, c'est une ligne qui est floue aussi. Y a pas, c'est pas comme s'il existait une liste exhaustive de choses qui sont correctes, choses qui sont pas correctes.
C'est vrai.
Il y a essentiellement une série de règlement, les articles sont relativement courts, qui dit juste que, bon, ben, si c'est de nature partisan, ça ne peut pas être payé par des fonds publics de l'Assemblée nationale, mais si c'est dans des objectifs de représentation, par exemple, ça se l'est. Ben, c'est quoi la différence entre une représentation publique et une représentation partisane? T'sais, si, mettons, justement, un député se déplace avec le chef de son parti pour annoncer leurs objectifs, comment ils vont voter sur certains projets de loi. Est-ce que c'est partisan ou est-ce que c'est juste un député qui parle à son public de c'est quoi son plan puis est accompagné de quelqu'un avec qui il coopère de façon très proche? C'est pas comme s'il y avait un guide qui disait, bon, ben telle affaire, si le chef parle pendant plus que 8 minutes et puis... Ça n'existe pas. C'est une ligne qui est floue. Tous les partis essayent, de bonne foi, je suis convaincu, de se retrouver dans cet équilibre-là. Mais c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver puis on se reprend des fois.
Absolument. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu sais, une tournée, il en a parlé lui-même dans son point de presse, Pablo, une tournée au Saguenay où tu as des députés de l'aile parlementaire qui te suivent parce que Pablo a aucun poste parlementaire, il n'est pas élu. Donc, si c'était lui en solo qui faisait les événements et qui avait de l'argent de l'Assemblée nationale d'impliquer, nécessairement, ça va à l'encontre de la loi parce qu'il n'y a aucun titre parlementaire, Pablo. Mais du moment qu'il va au Saguenay, par exemple, pour une tournée dans la région, il va rencontrer des usines et qui embarque dans le char avec lui deux députés qui sont porte-parole de l'économie des régions, mettons, dans le char, ben là, ils viennent de valider la nature parlementaire de la dépense. Et donc, on rentre dans le flou dont tu parlais et dont Farnell parlait. Et à ce moment-là, bon, encore une fois, ça va peut-être se terminer. Si c'est ça, c'est l'exemple que j'ai donné. Si c'est le genre d'événement qui s'est passé, bien, ça va se terminer comme ça se termine toujours. La commissaire à l'éthique va donner une tape sur les doigts, va donner un avertissement, va rappeler l'essence de la loi et du règlement en question, puis on va passer à un autre appel. Et ça me ramène à mon point que je mentionnais tantôt. Écoute, je ne peux pas croire que c'est ce genre d'événement-là, de dépenses floues qui va se terminer par une tape sur les doigts, qui a poussé Marois Risky à agir de cette façon-là, de mettre le feu dans la crèche de son ancien parti et de terminer possiblement, en tout cas, la première partie de sa carrière politique en queue de poisson. Il est mieux d'avoir de quoi qu'on apprend au courant des prochains mois, parce que je vais revenir à ton point, Jeff, c'est elle qui va manger la claque, c'est sa réputation qui va manger la claque si ça se termine effectivement comme ça.
Exactement. Je conclue ce débat-là parce que je veux qu'on parle également de la peine de mort pour les élus démocrates, là. C'est ce que Donald Trump a laissé flirter dans les médias. Bon, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Moi, selon moi, Marois Risky doit se présenter à l'Assemblée nationale mardi, aller devant les micros et répondre à des questions. Lambert, je sais que tu es d'accord avec moi. Farnell, toi, comme juriste, es-tu capable de la coacher pour au moins qu'elle donne des réponses un peu?
Je ne présumerai jamais de coacher Marois Risky sur cette question juridique. Elle me dépasse, elle me d'aplomb là-dessus et je suis convaincu
mais
qu'elle
est très bien. Mais là, elle est accompagnée d'un avocat. Là, ça se fait coacher le client pour qu'au moins il donne des informations?
Ben, ça se fait certainement demander à son avocat c'est quoi les implications juridiques de ses actes avant de les prendre. Je pense que ça, c'est légitime. Là. Puis c'est pas signe qu'on fait quoi de croche. C'est juste qu'on veut bien comprendre l'ampleur de ce qu'on fait. Mais encore une fois, je veux dire, Mme Risky est quelqu'un de brillante qui a certainement pas besoin que je lui dise quoi faire par l'entremise de micro ou autrement. Là.
Donc, excellent. David qui demande où est-ce que je peux m'inscrire pour avoir des brownies. Moi aussi, David, vends pas ton âme pour 100$ à Pablo Rodriguez, s'il vous plaît. Les gars, avant de passer à Donald Trump, je vous fais écouter, c'est un montage d'à peu près une minute. C'est justement ce qui a mis le feu aux poudres. C'est le montage des élus démocrates qui parlent aux militaires américains en leur disant « Vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de les écouter, les ordres de Donald Trump, quand il vous dit d'envahir des villes comme Washington. »
I'm Senator Alyssa Slotkin.
Un résumé, c'est des élus démocrates qui ont justement servi dans plusieurs forces de l'armée et qui disent aux militaires actuels, vous pouvez refuser des ordres illégaux. Et l'on fait référence justement à Donald Trump qui a envoyé la garde maritime dans plusieurs villes aux États-Unis. Je donne mon opinion en premier. Moi, pour une fois que les démocrates sortent et font une sortie fracassante, je suis pour ça. Ça a vraiment dérangé Donald Trump, Farnell?
Ce qui me fait capoter, moi, puis je me sens interpellé, puis là, je vais le dire, je vais accuser le contexte de pourquoi je me sens interpellé. Moi, je suis membre du barreau de New York. Moi aussi, j'ai juré serment de respecter la Constitution des États-Unis et aussi la Constitution de New York. Alors, je veux être le plus clair possible. Ce que les démocrates disent, c'est vrai. C'est absolument vrai. Tous les soldats ayant du simple soldat de plus bas grade jusqu'au général le plus élevé n'ont pas l'obligation de respecter, de suivre ou de donner effet à des ordres qui sont contraires à la Constitution ou qui sont illégales. Puis ça, c'est un vieux principe. C'est pas un principe spécial aux États-Unis, là. C'est un principe qui relève depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand tellement de soldats, de gardes, de camps de concentration ont essayé la défense en disant « Oui, c'est sûr que j'ai participé à des atrocités, mais je ne faisais que suivre les ordres de mes supérieurs. » Et la communauté internationale a dit au complet « Non, ça n'a jamais été une excuse valable. Ce n'est toujours pas une excuse valable. » Alors, ce que les démocrates disent, non seulement c'est vrai, c'est quelque chose qui va quasiment de soi. Alors, le fait que ça devienne controversé dire ça nous montre à quel point il y a de la confusion sur ce qui est légal, sur l'état de droit présentement aux États-Unis.
Et Lambert, je vais sur le côté politique avec toi. C'est la preuve que Donald Trump tente de plus en plus d'imposer son régime autoritaire pour que ça le dérange autant une vidéo comme ça des élus démocrates.
Écoute, tu sais, il y a le pif politique d'un enfant de 4 ans, sérieusement. Je veux dire, non, mais tu aurais demandé aux démocrates qui ont publié cette vidéo-là avant là, qu'ils la publient, tu leur aurais demandé quel serait le meilleur scénario, mettons, là, suivant la publication de votre vidéo, qui pourrait arriver, là, qui vous ferait vraiment plaisir là, avec cette vidéo-là. Qu'est-ce que tu penses qu'ils nous auraient répondu?
J'aurais dit le meilleur scénario, c'est que Donald Trump demande notre mort.
Ben, en tout cas, je ne sais pas s'il serait allé jusque-là, mais il aurait dit, le meilleur scénario, c'est que Donald Trump en parle sur son Truth Social, qu'il panique, qu'il a le feu fun, puis que, ben...
Puis là, il a fait pire, il a dit « peine de mort ».
Ouais, puis c'est là où ce que dit, bon, là, on va parler de... Là, je te parle vraiment de l'aspect communicationnel, là, en donnant du gaz à leur vidéo. Ben là, tout le monde l'a vu, puis leur message a été passé à grandeur, puis qu'eux autres sont bien contents. Puis je veux dire, il n'y a rien de scandaleux là, là.
Mais non.
Comme disait Farnell, il prête pas serment au président, il prête pas serment à la Chambre des représentants, au Congrès, il prête serment à une et seule et unique chose, la Constitution. Alors de dire qu'il faut respecter la Constitution, Trump le dit depuis des années lui-même, et bon, il la respecte bien quand ça y tente, là, mais maintenant, tout ce que ce gars-là dit, le problème, c'est qu'au fil du temps, il en dit tellement de la bouette et tellement fréquemment que ça finit qu'on est... On est quasiment rendu à avoir une écoute passive dans son cas. T'sais, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. On dit, bon, ben une autre niaiserie. Mais là, t'sais, dans le cas qui nous concerne, d'inciter à la haine, d'inciter à la mort, de pendre des adversaires politiques, je pense qu'il faut prendre le temps de dire, écoutez, là, ça n'a pas de maudit bon sens de dire ça publiquement, première affaire. Ça n'a pas de maudit bon sens de dire ça publiquement quand tu es le président de la première puissance mondiale. Deuxième affaire, et à un moment donné, il faut dénoncer ce genre de propos-là. Il ne faut pas arrêter de le dénoncer puis faire comme bon, mais c'est Trump qui l'a dit, c'est normal, il dit rien que des affaires qui n'ont pas de bon sens. T'sais, Trump lui-même a failli goûter à sa propre médecine. On est dans une ère où est-ce que la violence politique n'a jamais été aussi présente ici, au Canada anglais, aux États-Unis, en Europe, qu'on regarde partout dans le monde, autant sur les internets, sur les réseaux, que dans la vraie vie. Je t'ai dit, Trump a failli goûter à sa propre médecine de violence politique à deux reprises. Charlie Kirk, les élus du Minnesota, puis Melissa Hartman et son mari là, qui ont été tués à leur domicile, pendant que dans la même nuit, tu avais un sénateur de ce même État-là, M. Hoffman, et sa femme qui étaient attaqués et blessés. Fait que, tu sais,
En effet.
la liste d'exemples là, est sans fin. Alors, ben, c'est un autre exemple de Trump qui dit absolument n'importe quoi, qui finit par essayer de détourner l'attention du fait que il se fait revirer dans ses shorts par les différents tribunaux du pays, par le fait que sa cote de popularité est en baisse, par le fait que son parti est de plus en plus fracturé. On le voit dans le dossier de Jeffrey Epstein. Il est en train de complètement perdre les pédales. Alors, il tire sur tout ce qui bouge comme il le faisait avant, mais c'est beaucoup moins efficace parce que justement, sa base est de plus en plus fracturée.
T'sais, je pense que tout le monde, là, prenez un moment dans ce que vous êtes au travail, dans votre auto, peu importe. Imaginez quelqu'un vous dire il y a 10 ans que le président des États-Unis avait appelé à la mort d'élus de l'autre parti pour le crime impardonnable d'avoir rappelé aux forces armées qui n'ont pas l'obligation de respecter des ordres illégaux et inconstitutionnels. Imaginez quelqu'un vous dit ça il y a 10 ans. Vous dites, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est un futur dystopique. Est-ce que c'est Terminator? Est-ce qu'on est dans un monde qui n'a plus de bon sens? Puis hier, c'était drôle, je parlais avec Valérie Beaudoin, qui est une experte dans ce qui se passe aux États-Unis. Puis,
qui collabore
oui, exactement,
de temps en temps ici à l'émission.
Et puis elle m'a dit, écoute, puis c'était la troisième nouvelle hier. Troisième.
Fait qu'imagine.
On en a à peine parlé.
Ben, ça rejoint le point de Lambert qui dit, t'sais, faut pas, parce que c'est Donald Trump, dire, bah, c'est juste une autre niaiserie. Ouais. C'est une niaiserie importante.
Il ne faut pas normaliser ce qui se
passe. Il faut mettre toujours les projecteurs là-dessus. Je suis tellement d'accord. Lambert Drainville, toujours un bonheur, mon chum, de te parler, surtout dans ce segment de débat du vendredi. On se reparle mercredi?
Absolument.
Yes.
Salut, encore une fois, mon chum Farnel, je m'ennuie, je monte à Québec.
Je m'ennuie aussi, j'ai hâte de te voir, man. J'ai hâte de te voir bientôt.
Si tu viens à Québec, par exemple, en bas de Drainville, tu passes par les studios de Boulevard, hein?
Ouais, je vais être à Québec, d'ailleurs, mercredi prochain.
Hein? Ben, tu viens faire ta chronique en direct à Boulevard.
Je te réserve tout de suite pour une bière aussi.
Yes, ah, parfait. Hey, je vais aller la prendre, sa bière-là.
Ben,
oui. Allez prendre sa bière-là avec vous autres. On est en train d'organiser des bières, Mathias.
Hey, ça n'a pas d'allure.
Ah, c'est l'enfer.
L'ambiance est bonne, hein?
Yes, merci beaucoup, Lambert Drainville. Farnel, je te garde parce que je veux juste qu'on reparle un peu après la pause de Zoran Mamdani.
C'est bon.
Qui est en visite à la Maison-Blanche et Mathias me fait le signe du volant. Que se passe-t-il dans la circulation?
Ben, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Je commence avec Capitale direction ouest. C'est présentement entre Henri Bourassa et Laurentienne. Ralentissement qui commence à se créer dans le secteur. Laurentienne direction sud en arrivant sur Capitale. Temps d'attente à prévoir. Capitale direction est, c'est à hauteur de Robert Bourassa que ça va être au ralenti. Robert Bourassa et le Bourgneuf, l'intersection, c'est compliqué dans les quatre sens en arrivant sur cette intersection-là. Si vous avez des informations par rapport à cette situation-là, 88-971-1021. Également, on se transporte sur la rive sud parce que 20 direction ouest, ça commence peu à peu le ralentissement. Là, présentement, ça se situe surtout entre Président Kennedy et Chemin des Îles. Également, pont Pierre-Laporte, direction sud, ralentissement qui commence à se créer. C'est toutefois toujours léger, mais au cours des prochaines minutes, ça va s'aggraver de pire en pire. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Après la pause, on parle de la visite de Zoran Mamdani à la Maison-Blanche cet après-midi. Il va rencontrer Donald Trump et on fait le tour complet de l'actualité ici dans la région de Québec. Restez avec nous, vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. On en jase.